Enfin, j'arrive à la conclusion, qui est donc de chercher, hein, à répondre à la question, est-ce surnaturel ou paranormal, ou diabolique? Outre la connaissance de l'état spirituel des personnes, c'est important, sont-elles pratiquantes régulières, sont-elles converties, sont-elles profondément chrétiennes, sont-elles marquées par des compromissions avec l'occultisme, en possession de dons occultes qu'elles exercent? Donc il faut faire parler la personne sur son état spirituel, hein. Je vous propose, outre cet aspect des choses, donc deux pistes importantes. La première piste, c'est celle-ci. Il est nécessaire de mieux connaître les charismes extraordinaires à partir de leur exercice, et aussi de connaître la position des grands docteurs mystiques de l'Église concernant l'exercice des charismes et les phénomènes spirituels extraordinaires. Lorsque on a entendu de multiples fois des chants en langue dans des assemblées de prière, ou des messages donnés en langue suivis de l'exercice du charisme d'interprétation, on est mieux à même de discerner les contrefaçons à peu près identiques qui pourraient survenir chez certaines personnes encore sous influence occulte. Dans certains cas, par exemple, il s'agit de parler en langue disgracieux, contraignant, guttural, dont les effets sur l'assemblée ou les personnes de l'entourage sont généralement troublants. Contrefaçon. Lorsqu'on a entendu de multiples fois des paroles de connaissance données publiquement au cours d'assemblées de prière, on est mieux à même de distinguer les contrefaçons de la médiumnité ou de la divination. Autant la parole de connaissance est respectueuse de la liberté et de l'intimité de la personne. Autant la médiumnité est une vampirisation, comme une sorte de viol, pour amener à la lumière des éléments qui peuvent être très personnels. Et ça, c'est signé. Lorsqu'on a entendu de multiples fois des prophéties données publiquement au cours d'assemblées de prière, dont le contenu est nécessairement bref, et la sève biblique, on est mieux à même de discerner les prétendues locutions directes, obligatoirement contraignantes, est nécessairement longue. Longue, on en remplit des volumes. Car le démon est bavard, évidemment. Lorsqu'on sait à quel point l'inspiration biblique respecte le psychisme et la culture de l'auteur, on est mieux à même de saisir à quel point l'écriture automatique est une contrainte qui abolit la liberté, puisque les mots mêmes sont dictés et écrits sous contrainte. Lorsqu'on a vu de multiples guérisons accomplies par le Seigneur Jésus, après une prédication biblique et qui mène fréquemment à des changements de vie, à des conversions, on est mieux à même de discerner la conjuration magique des maladies, dont le caractère immédiat et automatique est à 100 lieues de la liberté divine. Lorsqu'on sait à quel point les grands mystiques et les docteurs mystiques fuyaient les phénomènes spirituels extraordinaires, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, on est mieux à même pour discerner les attachements pathologiques et enfermants à des dons flattant la volonté de puissance. Les gens utilisent leurs dons comme une possession personnelle à laquelle ils sont attachés plus que tout. C'est contraire aux enseignements des mystiques. Voilà une première piste, faire la comparaison entre charisme et... Moi, personnellement, j'avoue que ça a été mon chemin, ça m'a beaucoup guidé, le fait d'avoir pu voir les deux. C'est ce qui m'a ouvert les yeux sur les contrefaçons. Une seconde piste de réflexion plus importante, pardon, importante, consiste à se donner un certain nombre de critères forgés à travers une observation fréquente. Donc c'est des critères de terrain, si vous voulez. Un premier critère est celui-ci, le respect des médiations opposées à l'immédiateté. Les résultats obtenus par pouvoirs occultes sont immédiats. Ils abolissent le temps, ils suppriment les médiations. Donc ça, c'est toujours signe de magie, d'intervention diabolique. Parce que Dieu, lui, respecte les médiations, voire même favorise les médiations. La médiation du médecin, la médiation de l'équipe de prière, la médiation, etc.
Du temps,
du temps, de l'espace. Ouais. Toujours. C'est un critère très important. Comprenez, le gars qui a sa formule pour conjurer les brûlures, qui fait ça dans son salon, et les gens rentrent par une porte et sortent par l'autre porte avec le sourire aux lèvres, et en sifflotant, c'est forcément louche. Parce que c'est dans un créneau spécifique, immédiat, automatique. Quand on dit Notre Père, que ta volonté soit faite, on n'est pas dans cette configuration. Un deuxième critère, le respect de la liberté personnelle opposée à la contrainte. Les phénomènes occultes et paranormaux sont souvent contraignants pour la liberté personnelle. C'est le cas d'une sensibilité médiumnique qui s'installe et qui finit par parasiter la personne au point de la plonger dans l'angoisse car elle a accès à des renseignements qui ne devraient pas être en sa possession. Puis elle se ressent elle-même comme une éponge et elle en souffre. Elle ne sait plus comment se protéger. Donc voilà, critère de la question de la liberté opposée à la contrainte. Les charismes, au contraire, quand une personne reçoit une parole de connaissance, elle peut ne pas la délivrer. Elle peut la mettre de côté, elle s'interroge après, voire même elle en a une culpabilité, mais elle n'est pas contrainte. Elle reste libre. Troisième critère, l'abandon à la sagesse et à la souveraineté de Dieu, donc l'humilité. Opposé à l'exercice d'un pouvoir personnel flattant la volonté de puissance, l'orgueil. L'exercice des charismes nécessite d'être disponible à l'écoute de l'Esprit Saint et dans l'humilité de celui qui ne fait que transmettre. Tandis que l'exercice des dons occultes habite la personne comme un pouvoir personnel et finit par la gonfler d'orgueil. Ça, c'est. Et alors, malheureusement, quand le charisme est approprié comme un pouvoir, là, ça dérape complètement. Un charisme prophétie qui devient un pouvoir va déraper. Donc on a beaucoup dérapé aussi dans les charismes, en se les appropriant et en se gonflant d'orgueil. Un autre critère encore, l'automaticité opposée à la disponibilité. Les résultats obtenus par les dons occultes sont quasiment automatiques, ce qui confirme le critère précédent de la possession d'un pouvoir personnel. Tandis que la prière chrétienne, au contraire, ne cesse de dire que ta volonté soit faite, respectant ainsi la liberté divine. Donc disponibilité, Seigneur, tu feras ce que tu voudras. Je te demande telle chose, ma guérison, mais tu fais ce que tu veux. Voilà. Autre critère, l'exploitation de la crédulité opposée à l'exercice de la raison et de la foi. L'exercice des dons occultes s'accomplit fréquemment dans l'ignorance totale des procédures mises en œuvre et dans l'opacité la plus complète concernant la cause de l'efficacité constatée. Alors qu'un acte de foi en Jésus est obligatoirement transparent, une explication rationnelle est nécessairement simple, elle n'est pas alambiquée. Une explication alambiquée, précisément, porte la marque du menteur. Donc, dans le cadre de l'exploitation de la crédulité, on va vous fournir des arguments bidons, des trucs archi compliqués, chignons, etc., avec des mots ronflants pour vous endormir. Dans le cadre de l'exercice du discernement rationnel et de foi, c'est simple. Autre critère, la recherche du sensationnel opposé au dépouillement de la foi. La foi est nécessairement obscure, nue, dépouillée. Son exercice est éprouvant. À partir du moment où le merveilleux et le clinquant attirent l'attention sur les phénomènes, on risque d'être dans le domaine de la manipulation et de la prestidigitation. Ceci est valable pour l'exercice des pouvoirs occultes, comme pour l'exercice de certains charismes entachés par la recherche du prestige humain. Le repos dans l'esprit, par exemple, on pense que tomber par terre, c'est recevoir le plus de Saint-Esprit que de ne pas tomber, que. Une guérison divine particulièrement fracassante, c'est certainement du bon Dieu, alors que passer par le médecin, c'est plus coûteux, sûr. Mais voilà. Donc, y a eu des dérapages, là encore, avec un attachement au sensationnel qui a été extrêmement nuisible dans l'exercice des charismes. Autre critère encore, la confusion opposée à la distinction. Il est fréquent que la confusion des plans, par mélange du physique et du psychologique, ou du paranormal et du spirituel, aboutissent à des appréciations erronées, des jugements faussés, parce qu'on a confondu au lieu de distinguer. Venons-en à la conclusion, donc, on l'aura compris, l'essentiel se situe dans l'acquisition d'un discernement aiguisé. En même temps, la Bible, d'une part, et l'enseignement du magistère, d'autre part, fournissent un certain nombre de points de repère sûrs. Jésus nous a prévenus, des gens peuvent sembler faire des miracles, mais en fait commettre le mal. Vous avez ce passage dans Matthieu chapitre 7, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Alors je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Et pourtant, ils ont semblé faire des exorcismes, ils ont semblé faire des miracles, ils ont semblé... Voilà. À propos de la divination et du spiritisme, deux passages de l'Ancien Testament nous aident à prendre conscience que nous sommes dans le domaine de l'idolâtrie et qu'il faut y renoncer pour être fidèle à la sainteté de Dieu. Par exemple, dans le livre du Deutéronome, on ne trouvera chez toi personne qui interroge les spectres ou les devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu. Ou dans le livre du Lévitique, celui qui s'adressera aux spectres et aux devins pour se prostituer à leur suite, je me tournerai contre cet homme-là et je retrancherai du milieu de mon peuple. Vous vous sanctifierez pour être saint, car je suis Yahvé votre Dieu. Et puis en ce qui concerne l'astrologie, saint Paul dit aux Galates en leur passant un savon, jadis, dans votre ignorance de Dieu, vous fûtes asservis à des dieux qui ouvraient dans son pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt qu'il vous a connu, comment retourner encore à ces éléments sans force ni valeur, auxquels à nouveau, comme jadis, vous voulez vous asservir ? Observez des jours, des mois, des saisons, des années, des dates, des machins, des trucs. Vous me faites craindre de m'être inutilement fatigué pour vous. Et puis alors, vous avez ce passage du catéchisme de l'Église catholique qui est extrêmement clair, les numéros 2115 à 2117. Concernant la médiumnité, concernant la divination, concernant la magie, la sorcellerie, etc. Vous pourrez le lire à tête reposée. Ce sont des critères sûrs.